qu'on est très heureux, très honoré aussi de cette inauguration. Alors, cette année, Christophe donne un cours sur Karl Rahner, et l'année prochaine, ça sera David Sandres qui est ici, qui donnera un cours sur Karl Rahner, théologien de l'expérience de Dieu. Voilà. Et bienvenue à nos intervenants de ce soir, le cardinal Ulrich, archevêque du Luxembourg, ancien président de la COMECE, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, et actuellement rapporteur général du synode sur la synodalité. Il y a aussi Olivier Riodel, qui a fait le déplacement depuis Louvain, où il enseigne la théologie fondamentale et dogmatique. Evelyne Maurice, qui vient de Suisse, qui enseigne à Fribourg et qui est doyenne de la faculté d'Omuni Universitas, et que nous sommes très heureux de retrouver ici, puisque Evelyne a été longtemps membre de la faculté de théologie de ce qui s'appelait à l'époque le Centre Sèvres. Et puis, Michel Fédou et Christophe Théobald, je pense que j'ai pas trop besoin de vous les présenter. Merci beaucoup à vous pour nous partager ce soir vos réflexions à partir de l'œuvre de Karl Rahner, et merci beaucoup pour votre engagement dans la traduction, la publication des traductions des œuvres complètes de Rahner. Voilà. Je dois dire que je me réjouis vraiment beaucoup en tant que recteur de l'ouverture de cette chaire Karl Rahner, qui permettra aux étudiants, aux auditeurs libres et aux enseignants de découvrir davantage la pensée de ce grand théologien et d'en mesurer la pertinence pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut dire sans exagérer que Karl Rahner constitue une référence majeure aux facultés Loyola Paris et qu'il en est question dans beaucoup de cours et de séminaires qui se tiennent ici. Il constitue, pourrait-on dire, un incontournable de la maison. Mais il y a toujours un certain risque à parler d'un auteur simplement à l'occasion de telle ou telle question, notamment si l'on oublie de se confronter à son œuvre elle-même. Et c'est le risque de perdre quelque chose de sa force et de la cohérence de sa proposition. Et c'est pourquoi l'ouverture de cette chaire Karl Rahner est vraiment bienvenue, dans la mesure où elle va nous inviter à entrer vraiment dans la proposition de ce grand théologien. Qu'est-ce qui rend les perspectives ouvertes par Karl Rahner particulièrement pertinentes pour l'époque que nous vivons et qui est parfois caractérisée comme un changement d'époque, c'est-à-dire un temps où beaucoup de repères majeurs sont bouleversés? Eh bien, nous aurons sans doute des éléments de réponse à cette question au cours de la soirée, car c'est précisément le thème de cette soirée. Mais si j'avais moi-même à avancer une réponse à la question, parce que c'est toujours intéressant, quand on écoute une conférence, de se demander comment, à son propre compte, on aurait abordé la question. Eh bien, si j'avais moi-même à risquer une réponse à cette question, je dirais bien que Rahner nous renvoie à une expérience qui se situe en deçà des questions qui nous agitent. Il oriente notre intérêt non pas d'abord vers des repères, mais vers une expérience fondamentale, indicible et pourtant féconde pour la pensée, celle du mystère de Dieu qui se donne lui-même gratuitement. Et cette expérience fondamentale, quand elle est accueillie, permet de recomposer, à chaque époque et dans les contextes culturels différents, des repères sûrs, capables de guider notre marche. Mais ce ne sont pas ces repères qui ont les promesses de la vie éternelle. Voilà. Donc voilà comment je répondrai à ma manière à la question. Mais nous allons entendre tout d'abord trois intervenants qui vont nous présenter les derniers nés de la traduction des œuvres complètes de Karl Rahner. Il y aura d'abord Michel Fédou qui interviendra sur le terme de la corporéité de la grâce en présentant le volume des écrits sur la doctrine des sacrements de Rahner. Et puis Evelyne Maurice présentera le volume 14 des œuvres complètes qui s'intitule « Vie chrétienne, essai, méditation, homélie ». Et puis après, ce sera Olivier Riodel, voilà, qui présentera l'ouvrage qui s'intitule « Impulsion pour la théologie systématique, contribution à la théologie fondamentale et à la dogmatique ». Donc chacun va présenter ses trois volumes en environ 10 minutes. Et puis après, eh bien, je pense qu'on pourra avoir un petit temps d'échange avec eux, notamment si vous avez des questions d'éclaircissement ou voilà, si tel ou tel point que vous, sur lequel vous souhaiteriez revenir. Voilà. Et ça, ça constituera la première partie de notre soirée. Et puis, dans un deuxième temps, nous aurons une intervention du cardinal Ulrich sur le synode sur la synodalité et la théologie. Et puis Christophe, qui interviendra sur Karl Rahner et le Concile Vatican II, une orientation pour le synode sur la synodalité. Voilà. Un très, très grand merci à tous nos intervenants. Un très grand merci aussi à Sœur Moïssa, qui a été à la manœuvre pour préparer cette soirée. Voilà. Et à tous, je vous souhaite une excellente soirée.
Éminence, chers pères, chers amis, bonsoir à tous. Il me revient donc de présenter le volume 18 des œuvres, intitulé « La corporéité de la grâce », écrit sur la doctrine sacramentaire, un ouvrage qui est paru en 2022. Ce volume de quelques 900 pages rassemble à la fois trois livres de Rahner, un certain nombre de conférences et d'articles, et quelques textes complémentaires, tous portant sur les sacrements en général, ou parfois sur tel ou tel sacrement en particulier. Quelques-uns de ces textes étaient déjà accessibles en français depuis les années 1960 ou 1970, mais beaucoup étaient inédits en langue française, et je remercie beaucoup Robert Kremer et Jean-Louis Schlegel d'avoir traduit la plupart de ces inédits. Certains de ces écrits sont assurément très marqués par les circonstances, et d'un côté, il faut reconnaître que cela limite un peu leur portée. On s'en rend compte par exemple avec un petit texte intitulé « Messe et télévision », un texte qui date de 1953 et qui peut légitimement étonner parce que Rahner y prend une position critique par rapport à la messe télévisée, alors que nous savons bien aujourd'hui les immenses services qu'elle rend pour des personnes dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Mais n'oublions pas, on était au tout début de la messe télévisée, et Karl Rahner craignait alors que, par ce biais, on en vint à assister à la messe un peu comme un spectacle. On relève aussi que, ailleurs, Rahner consacre de longues réflexions au problème de la fréquence des messes ou encore au problème de la concélébration, des questions qui faisaient l'objet de débats importants dans les années 1950, avant le Concile Vatican II. Mais d'un autre côté, ces différents textes, outre l'intérêt qu'ils gardent du point de vue historique, sont très révélateurs de l'extrême attention que Karl Rahner portait aux questions les plus concrètes de la pratique sacramentelle. Et surtout, c'est entre autres par cette voie que Rahner était conduit à aborder les sujets les plus fondamentaux de la théologie des sacrements. Cette théologie des sacrements donne précisément lieu, dans le volume, à plusieurs écrits de très grande importance. Au nombre de ces écrits figure avant tout un livre qu'on peut vraiment considérer comme un chef-d'œuvre, le livre « Église et sacrements », qui est paru en 1960, juste avant le Concile Vatican II. Ce livre s'inscrit dans le renouveau qui marquait la théologie sacramentaire depuis plusieurs publications très importantes d'Henri de Lubac, « Corpus Mysticum »,« Méditation sur l'Église », d'Yves Congar, d'Edouard Silvex ou encore d'Otto Semmelroth. Karl Rahner refuse de considérer les sacrements de manière isolée. Il est avant tout soucieux de mettre en évidence leur lien intime avec l'Église, d'où le titre « Église et sacrements ». L'Église qu'il présente comme le sacrement primordial, « ur sacrament ». Et Rahner éclaire à cette lumière les questions classiques de la théologie sacramentaire, en particulier celle de l'institution des sacrements, et de leur efficacité. Rahner montre par exemple que la prise en compte de l'Église comme sacrement primordial, ur sacrament, permet de penser l'institution des sept sacrements reconnus par la tradition catholique, là même où l'on ne peut pas remonter à des paroles explicites d'institution par le Christ. Quant à l'efficacité des sacrements, elle ne signifie évidemment pas que Dieu ne puisse pas agir sans les sacrements, mais elle est du moins attestée et garantie par l'Église en tant que l'Église est justement le sacrement primordial. ce n'est évidemment pas un hasard si peu de temps après, quelques années après, le mot sacrement est également appliqué à l'Église dans la fameuse constitution Lumen Gentium de Vatican II, concile auquel Ranner, comme vous savez, a lui-même participé comme expert. Ce sont aussi d'autres textes qui, à mon avis, contribuent à faire le grand intérêt de ce volume. Le premier de ces textes particulièrement pertinents pour nous, et dont on trouve ici la première traduction française, s'intitule « Qu'est-ce qu'un sacrement ?». Ce texte a été publié en 1971 à la suite d'une conférence du théologien luthérien Eberhard Jüngel, et dans ce contexte, un contexte œcuménique, Karl Rahner prend pleinement acte de l'insistance protestante sur la parole de Dieu. Rahner montre comment le sacrement peut être lui-même présenté comme, je cite, « un événement spécifique de cette parole ». Et il montre comment il est possible, par cette voie justement, de penser les sept sacrements de l'Église catholique d'une manière qui soit autant que possible crédible au regard de la réforme protestante. J'ajoute que cet écrit, « Qu'est-ce qu'un sacrement ?», apporte une correction discrète par rapport au livre « Église à sacrement » de 1960. En effet, alors que « Église à sacrement » présentait l'Église comme « sacrement primordial », je l'ai rappelé, « ur sacrament », Rahner la présente désormais, en 1971, comme « sacrement fondamental »,« grund sacrament », et il préfère réserver l'expression « sacrement primordial » au Christ lui-même. Sans doute cette correction entend-elle prendre en compte une objection qui était soulevée, entre autres, par des théologiens protestants par rapport au concept d'église-sacrement, ces théologiens étant soucieux de marquer davantage la différence entre l'Église et le Christ. Le second texte, dont je voudrais vraiment souligner tout particulièrement l'importance, remonte à 1959 et s'intitule « Pour la théologie du symbole ». C'est peut-être, en fait, le texte le plus fondamental. Certes, cet écrit traite du symbole en général, et il définit le symbole non pas comme un simple signe, mais, je cite, « comme l'accomplissement par soi d'un étant dans ce qui est autre ». Par exemple, si l'on dit que le cœur de Jésus est symbole de l'amour du Christ, c'est au sens où cet amour du Christ trouve son accomplissement dans ce qui est autre que lui, en l'occurrence, son cœur de chair donné pour la vie du monde. Mais précisément, Karl Rahner applique cette réflexion sur le symbole au sacrement lui-même. Dire que les sacrements sont symboles au sens le plus fort du mot, c'est dire, je cite, que la grâce de Dieu se rend présente et efficace dans les sacrements par le fait même qu'elle crée son expression, sa visibilité historique et spatio-temporelle. C'est dire, en d'autres termes, la corporité de la grâce, selon le titre qui a été donné à l'ensemble du volume. Ce sont là autant d'apports fondamentaux à la théologie des sacrements. Ce volume 18 comprend assurément bien d'autres apports, par exemple avec le merveilleux petit livre « Le don septiforme » qui rassemble des méditations sur chacun des sept sacrements, ou encore avec la profonde étude de théologie spirituelle sur les rapports entre piété personnelle et piété sacramentelle, ou dévotion personnelle et dévotion sacramentelle, ou encore avec les très beaux développements de Rahner sur, je cite, « la fête du pain quotidien », sur « dimanche, le jour du Seigneur », ou bien sur ce qui fait du mariage un mariage chrétien, sans oublier une étonnante interview de 1975 sur la question de savoir si l'on peut utiliser le pain et le vin au pays des Esquimaux. L'ensemble du volume, vous le voyez, est passionnant. Il traite à la fois des questions les plus spéculatives et des questions les plus concrètes. Cela, en fait, était requis par le sujet même, puisque, avec les sacrements, nous le savons, il n'est pas seulement question du don de Dieu, mais il est question de la manière dont ce don prend corps jusque dans les réalités les plus élémentaires. Le sens du volume réside bien, en définitive, dans le titre qui lui a été donné, « La corporéité de la grâce ».
Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction qui donne
qui donne envie de découvrir davantage ce volume. Je passe la parole maintenant à Evelyne pour présenter le volume « Vie chrétienne ».
Le volume 14, intitulé « Vie chrétienne », essai, méditation, homélie, a une place singulière dans le corpus des œuvres complètes de Rainer en français. Je dirais qu'il peut être la porte qui ouvre aux contributions plus systématiques. Vous avez vu le vocabulaire utilisé par Michel, vous voyez qu'il n'est pas forcément accessible de premier abord. Donc je dirais que cet ouvrage sert un peu de prolégomène. Alors que Rainer a une réputation d'auteur compliquée, ce volume fait entrer dans la vie et l'œuvre en permettant de découvrir non seulement le théologien, mais aussi le religieux et je dirais même l'homme tout court. La pensée de l'auteur se révèle dans toutes ses facettes. Le souci d'être toujours à l'écoute des problématiques actuelles, de donner des réponses nouvelles aux questions fondamentales de la théologie et de la vie, de construire une théologie en recherche pour donner des réponses aux questions actuelles concernant la vie chrétienne. Dans un monde pluraliste et très sécularisé, en proie à des remises en cause incessantes, Rainer tient ferme l'essentiel et donne avec une grande honnêteté intellectuelle des réponses sur le sens de l'existence et en particulier sur le sens de l'existence chrétienne. Son actualité est indéniable et mérite d'être fortement soulignée. L'ouvrage regroupe des contributions des années 1950-1960. Je voudrais mettre l'accent sur trois éléments essentiels. Premièrement, le rôle et la finalité des affirmations ou des concepts théologiques qui seront comme vérifiés par leur pertinence dans le concret. Rainer développe des concepts théologiques en lien avec la vie. De ce fait, il nous fait réfléchir, et peut encore nous faire réfléchir aujourd'hui, sur la place du concept en théologie. Cela se remarque plus dans la première partie de l'ouvrage, la partie A, notamment dans la première contribution intitulée « L'aujourd'hui de la foi » ou « Croire aujourd'hui ». Les concepts théologiques ne nous invitent pas à une réflexion déconnectée du contexte et de la réalité. L'acte de croire est le fondement de la théologie. Les affirmations de la christologie rainérienne y sont reprises avec insistance et clarté. Dieu est là où nous sommes, tout en demeurant le mystère insaisissable. La communication que Dieu fait de lui-même a atteint son point culminant et son objectif maximum en Jésus-Christ. À partir de là, Rainer s'interroge sur le nouveau visage de la foi, sur la diversité de ses formes en fonction du contexte historique. Il s'agit de discerner ce qui est pérenne et ce qui est indispensable pour vivre sa foi d'une manière neuve et adaptée à chaque époque. Il faut donc, d'un côté, déterminer ce qui doit demeurer et de l'autre, ce qui peut évoluer, ce qui est toujours très important, même aujourd'hui. Des pistes d'avenir sont alors suggérées dans un langage clair, voire même incisif. Édifier, dit-il, une théologie sainte fondée sur l'expérience du monde, et je cite encore, abandonner un esprit petit bourgeois, accepter de se déplacer ou d'être déplacé par la parole de Dieu, et vivre une foi fraternelle qui est authentique don de Dieu. Deuxièmement, nous découvrons un Rainer pasteur qui commente la parole de Dieu alors qu'il lui fut si longtemps reproché de ne pas la prendre suffisamment en compte. Il s'agit de la partie B du volume. Celle-ci rassemble un grand nombre d'homélies prêchées chaque dimanche dans l'église de l'université d'Innsbruck. Il s'agit de 45 sermons des années 1953 à 1958. Le prédicateur nous entraîne à méditer la parole de Dieu. Nous découvrons alors le théologien sous un angle nouveau dans l'exercice de son ministère sacerdotal. Ces homélies d'une grande actualité ne sont ni de l'exégèse, ni de la théologie, mais un style particulier. Même si ces disciplines les nourrissent, Rainer médite la parole de Dieu d'une manière unique. On ne peut que s'étonner de voir un râneur que l'on dit si spéculatif, si philosophe, prêcher avec tant d'ardeur et de concentration, enracinant ses propos dans la vie quotidienne. La parole de Dieu est abordée avec foi, avec élan, avec une intelligence qui provoque à l'action et lutte contre notre tendance effrayante à ne pas entendre. Pour parvenir à ce but, les fidèles sont invités à adopter une juste posture. Râneur initie les auditeurs à la lecture du texte comme si celui-ci s'adressait directement à chacun d'entre eux, car la grâce de Dieu rejoint chacun au plus intime de lui-même. La parole est inséparable de la vie. Par conséquent, la lecture de la parole de Dieu est nourrie de notre expérience, de la douleur, de la tristesse, de la joie humaine. Le prédicateur place les fidèles devant la vérité du texte biblique pour le mettre en lien avec leur vie. Il n'achève jamais une homélie sans poser des questions qui renvoient ses auditeurs à leur vie quotidienne. Ces sermons nous permettent de voir comment Râneur se situe par rapport à la parole. Devant le texte biblique, il y a bien plus que le théologien ou le professeur. Il y a le religieux, le jésuite, on pourrait dire le frère, qui exhorte ses frères dans le Christ. Râneur sert la parole, il ne la déconstruit pas. Il cherche le sens à transmettre pour la gloire de Dieu et le salut de l'homme. C'est une vraie mystique de la vie quotidienne qui est dévoilée, par laquelle se découvre le véritable sens chrétien de ce qu'on fait et de ce qu'on doit faire. Dans cette existence, la parole de Dieu a une place unique. Les homélies du jésuite nous mettent en lien avec cette parole pour aujourd'hui et nous invitent avec élan à l'entendre et à l'enraciner dans notre vie. Elles nous font sortir de la banalité pour retrouver la sève unique de la foi. L'écoute de la parole commentée engendre des effets différents à chaque fois qu'elle nous rejoint. Il ne s'agit pas d'une pure répétition du même. Point de technique apparente, point de recette de communication, mais un cœur convaincu de la parole, de la vérité de la parole de Dieu, qui est efficace au quotidien et qui aide chacun à réaliser pleinement la vie reçue. Le quotidien éclairé par la parole, c'est le lieu de la rencontre avec Jésus de Nazareth. Il ne s'agit pas de répéter un cours. Râneur, qui a si souvent enseigné, le savait bien. Il ne s'agit pas de se livrer à un exercice purement intellectuel. Parce que, justement, Râneur a mis dans sa vie la parole au centre, il peut aider les autres à faire de la parole de Dieu le cœur de leur existence. Le troisième ensemble de textes, parties C et D, met en évidence le lien intime entre théologie spéculative et spiritualité. Les temps forts de l'année liturgique sont commentés à partir de la théologie. Cohérent avec sa christologie, Râneur insiste sur la proximité d'un Dieu qui se communique en vérité tout en restant le mystère infini. Dans son Fils unique, Jésus-Christ, Dieu l'infini lointain est devenu le tout proche. Il est là où nous sommes et il nous invite à ouvrir l'oreille. À partir de là, Râneur tire toutes les conséquences de l'humanité du Christ dans toute sa vérité et il met sa christologie en pratique. Jésus de Nazareth est présent et doit inspirer notre quotidien. Dieu, ce mystère infini, cette question qui se pose à l'homme, se donne en Jésus-Christ et nous inspire une manière d'être et de faire. Râneur nous livre ainsi une christologie existentielle que le traité fondamental de la foi reprendra ultérieurement. Les grandes fêtes de l'année liturgique sont commentées à partir de là et nous sommes invités à les vivre en vérité et concrètement. Notre christianisme est vécu à partir du concret et non pas dans des échappées inconsistantes et abstraites. Notre avenir se joue ici-bas. Les choses d'en haut, la grâce de Dieu, sa présence en nous et dans notre entourage, nous parviennent par la médiation d'événements et de circonstances qui sont terrestres en apparence. Il faut établir le lien entre le ciel et la terre et ne pas réduire le catholicisme à une institution qui s'exprimerait uniquement dans un légalisme formel et un ritualisme dénué de lien avec le concret existentiel. C'est dire l'importance de vivre sa foi dans le concret. Le quotidien n'est pas vide de Dieu. Bien au contraire, c'est très exactement là que le Père a envoyé son Fils Jésus de Nazareth, et c'est là que nous le rencontrons. Ce volume 14 révèle un runner sous un jour original qui délivre une porte d'entrée à son travail théologique. Son attachement à la parole de Dieu est incontestable. L'homme runner, d'abord jésuite, est toujours présent derrière le professeur et le théologien. Il établit un lien indissociable entre théologie et spiritualité. La théologie s'enracine dans une vie de foi et réciproquement. Si Runner manie parfaitement les concepts, il les met à leur juste place. Ceux-ci doivent s'annuler en pénétrant dans l'incompréhensible mystère qui résiste à toute explication exhaustive. La théologie s'enracine dans une foi ancrée dans le réel et dans une spiritualité vivante. Et Runner reprend à son compte ce que, dans ce même volume, il dit de saint Thomas d'Aquin. S'il est permis de citer saint Thomas d'Aquin dans cette auguste assemblée, il reprend à son compte ce qu'il disait de saint Thomas d'Aquin dans un article de ce volume. La théologie des notions conceptuelles n'est vraiment théologie que là où elle s'annule, en pénétrant dans l'incompréhensible mystère qui saisit l'être. Pour Runner, comme pour le docteur Angélique, la théologie est sa vie spirituelle, et sa vie spirituelle est la théologie. C'est ce que ce volume nous permet de découvrir.
Merci beaucoup, Evelyne, pour cette présentation du volume 14 des œuvres complètes de Karl Runner. Je trouve que ton intervention montre l'intérêt aussi de cette publication des œuvres complètes, parce que ça permet de découvrir des aspects de Karl Runner, des facettes de Karl Runner qui sont pas les premières auxquelles on pense. Ici, tu nous as parlé du pasteur, de celui qui commente la parole de Dieu aussi, et puis de ce théologien qui fait le lien avec une expérience spirituelle. Voilà. Un grand merci. En t'entendant, je voyais les images de couverture qui illustrent très bien ce dont tu parlais, parce qu'on voit Runner qui écoute comme ça, voilà. Tu as beaucoup parlé de l'écoute de la parole de Dieu et puis on peut dire aussi de l'écoute de l'expérience des contemporains. Voilà. Ben, je passe la parole à Olivier Riodel pour présenter le volume 30, donc Impulsion pour la théologie systématique.
Merci beaucoup. Éminence, mesdames, messieurs, ce volume a été publié à la fin de l'année dernière. Il rassemble des contributions en théologie dogmatique et en théologie fondamentale des années 70-80, les derniers textes de Runner, et couvre du coup des questions de méthode théologique, de christologie, de situation de la foi dans le monde contemporain, sur la question de Dieu, de la christologie, des questions d'anthropologie. Quelques éléments, qu'est-ce qui caractérise ce volume? C'est sans doute une insistance plus grande que dans d'autres textes de Runner sur l'historicité de la pensée chrétienne et sur sa particularité. Il y a par exemple des dialogues intéressants avec l'hindouisme, des textes de ce type qui apparaissent dans une écriture de Runner qui devient parfois plus libre, moins académique peut-être. C'est même parfois drôle et parfois un peu féroce. Je voudrais remercier celles et ceux, parce que c'est une des caractéristiques de ces textes, c'est que très peu étaient traduits en français jusqu'à présent. Je voudrais explicitement remercier celles et ceux qui m'ont aidé à traduire ce volume, Rémi Chéneau, Gabriel Nolt et Flore Honneux qui est parmi nous ce soir. Je me suis dit que la meilleure façon de rendre hommage à ce volume de Karl Rahner et pour l'inauguration d'une chaire de Karl Rahner était de lire du Karl Rahner. Ce n'est pas moi donc qui vais parler, mais Karl Rahner. Un petit texte, rassurez-vous, mais que je lirai en entier, qui s'intitule « La résurrection des morts » et qui est une prière écrite par Rahner à l'occasion de ses 80 ans, publiée en 1984. Et que je trouve très révélatrice, cette prière, du type de questionnement et d'écriture de Rahner dans les dernières années de sa vie. Mon Dieu, quand j'écoute plus attentivement ce qui vit vraiment en moi quant à l'espérance d'éternité, je constate une étrange difficulté. D'une part, je n'aime pas parler de l'âme qui n'entre dans ta vie que par la porte de la mort, ni non plus parler de l'immortalité de l'âme, parce que je me sens trop massivement corporel, sans parler d'autres difficultés théologiques. Alors j'imagine mon au-delà auquel je crois de façon tellement abstraite et démythifiée, que suis-je censé faire des nuées du ciel, des trompettes du jugement, du rassemblement dans la vallée de Josaphat, de l'ouverture des tombeaux, etc. Mais ma conviction de l'au-delà semble alors se réduire misérablement à la conviction que, dans la mort, je resterai moi-même, enfin vraiment gardé dans ton pouvoir, dans ton amour et ta bénédiction, sans savoir comment. Et même cette phrase, qui reflète ma conviction, je dois encore la placer sous la réserve de l'analogie. Ma foi en l'au-delà, ma conviction d'une résurrection des morts est-elle donc après tout très peu corporelle? Dois-je me soupçonner d'être un rationaliste abstrait sur le tard, avec une foi toujours plus mince? Tu parais être silencieux et me laisser à mes pensées vacillantes. Eh bien, je dois peut-être penser ainsi. Si je nie telle ou telle chose de toi, ou de l'au-delà, de la résurrection, alors peut-être puis-je comprendre cette négation qui distingue les représentations de toi et de la résurrection de leur réalité, parce qu'elle ne me semble pas tout à fait correspondre à ce que l'on peut dire. Sur quelle chaise serais-je assis au ciel si j'ai un corps? Je dois donc comprendre peut-être cette négation comme finalement quelque chose de positif, car ta réalité et ta puissance infinie n'ont pas à réfuter toutes ces réalités apparemment négatives, mais elles les dépassent et elles les préservent d'une manière sublime. Je pense que ce serait trop facile de vouloir abandonner le vocabulaire du matériel, sous prétexte qu'on ne peut tout simplement pas l'utiliser à ton sujet, pour utiliser celui du spirituel, à ton sujet, ou au sujet de notre accomplissement. Comme si ce vocabulaire n'avait pas besoin, lui aussi, d'être pensé de façon renouvelée. Esprit et matière doivent être certainement repensés autrement pour parler de toi et de notre accomplissement. Mais on peut cependant vraiment parler de matière à ton sujet et au sujet de notre accomplissement au prix d'un dépassement et d'une transformation, puisque, une fois encore, mon Dieu, tu es au-dessus de nos distinctions et abstractions. Pourtant, une fois encore, tu es inconcevablement proche de ce que nous ressentons, non sans raison, comme infiniment éloigné de toi, car tu n'es pas seulement celui qui est plus grand que beaucoup, mais aussi le Créateur et la cause première de tous. Si la matière n'avait rien de semblable à toi, en tant que telle, tu ne pourrais pas l'avoir créée. Elle devrait être considérée, comme chez beaucoup de philosophes antiques, comme de l'anti-divin. C'est pourquoi je me réjouis dans l'attente de la résurrection. Et je ne considère pas cette affirmation de foi simplement comme l'expression d'une quelconque particule secondaire du monde, mais comme l'attestation radicale que tu n'es pas étranger à la matière. Et tu ne te tiens pas négativement contre elle, mais que tu l'as même constituée comme le fondement originel commun de toute réalité en devenir jusqu'à l'esprit, où même les anges sont enracinés. Quand, au prix de la finalité de notre existence, nous parlons de proximité, de vision, de danse, de jubilation bienheureuse, de goût, de toucher, je ne sais pas très bien comment tout cela peut avoir sa place à côté de la vision divine immédiate de ta réalité et de ta gloire éternellement incompréhensible. Mais je n'ai pas à diluer tout ce discours bien concret de manière plus spiritualiste encore que toutes les déclarations d'un genre plus spirituel et métaphysique qui ne sont qu'apparemment plus faciles à comprendre. Lorsque la consommation des temps viendra, nous serons surpris de voir combien tout sera différent de ce que nous aurons imaginé, et combien aussi les imaginaires les plus spirituels sont en dessous de la vraie réalité. Mais plus encore, ce tout très différent se montrera aussi étonnamment proche et adapté à notre état d'existence actuel. Mon esprit et ma chair se réjouiront en Dieu, mon Sauveur. Parce que dans l'éternité de Dieu, le temps ne joue en fait plus aucun rôle pour nous non plus. Je suis indifférent à la question de savoir s'il existe une distance entre ce que nous appelons l'accomplissement spirituel personnel et ce que l'on appelle la résurrection qui puisse être comparée à notre temps. J'attends, ô Dieu, dans la patience et l'espérance. J'attends comme un aveugle à qui l'on promet la venue de la lumière. J'attends la résurrection des morts et la résurrection de la chair. Merci, Karl Rahner.
Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir ainsi fait goûter les propos même de Karl Rahner. Si je me trompe pas, c'était très peu de temps avant sa mort, en fait. Hein ? Voilà. Donc, nous avons entendu ces trois introductions à ces trois volumes. Nous pouvons prendre peut-être quelques temps si vous avez des questions, des commentaires, des réactions. Voilà. Je vais chercher un micro. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un peu plus sur un de ces trois volumes ou sur autour des questions qui ont été abordées par ces trois volumes, n'hésitez pas. Mais je vois que vous êtes très impatient d'avoir la deuxième partie de la soirée. Donc, on va écouter d'abord Mgr Ulrich. Et d'abord, un très très grand merci à nos trois intervenants. Je crois qu'on peut les applaudir. Donc, nous allons entendre maintenant Mgr Ulrich et puis Christophe Theobald pour nous parler donc... du synode sur la synodalité et la théologie, et puis Christophe sur Karl Rahner et le Concile Vatican II.
En écoutant les présentations des livres, je me suis dit qu'il y a quand même une grande ironie dans les titres ecclésiastiques, puisque tous ont commencé leur présentation en disant « éminence ». Eh bien, je ne suis pas éminent en théologie et je parle devant des gens éminents en théologie, ce qui me donne une certaine humilité pour mes paroles. La prise de conscience relativement récente de la notion de synodalité est le signe d'une maturation dans la conscience ecclésiale de l'enseignement de Vatican II. Cette prise de conscience, nous la devons au pape François, qui définit la synodalité essentiellement comme le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. Cette récente fortune de la synodalité manquait de principes théologiques clairs. Pour combler ce manque, la Commission théologique internationale a rendu public en 2018 un document intitulé « La synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église » qui constitue la première synthèse théologique sur ce thème publié à un niveau aussi élevé dans l'Église catholique. Je voudrais revenir brièvement sur ce que ce document appelle les fondements théologiques de la synodalité. Et ensuite, je voudrais faire une relecture théologique du processus synodal sur la synodalité en cours, en me basant notamment sur le rapport de synthèse de la première session, octobre 2023. On verra pour finir ce que le synode sur la synodalité apporte ou pourrait peut-être apporter de nouveau à la théologie. C'est dans son deuxième chapitre que le document de la Commission théologique internationale que je viens de citer présente les principaux fondements théologiques de la synodalité. Le premier est trinitaire. La Trinité est source et fin de la synodalité de l'Église. Saint Cyprien comprend l'Église, en effet, comme le peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit-Saint. Le deuxième fondement théologique de la synodalité est pneumatologique. L'Esprit-Saint est le premier protagoniste de la synodalité. Son action dans l'Église, entendue comme communion du corps du Christ et peuple de Dieu, est le principe même de la synodalité qui articule les différents charismes dans l'Église. Et chaque mois, nous rencontrons le pape pour lui présenter la préparation du synode. Et chaque fois, il nous cite les pères de l'Église, ce qu'ils ont dit sur l'Esprit-Saint. Le troisième fondement est eucharistique. Le chemin synodal de l'Église est alimenté et façonné par l'Eucharistie. Et, pour la première fois, les messes pendant la première session du synode n'étaient pas uniquement privées. Il y avait la possibilité d'assister chaque jour à une messe célébrée ensemble à Saint-Pierre. Et les évêques de chaque continent ont pratiquement célébré et animé une grande liturgie eucharistique pendant la première session. Il faut faire remarquer que ces fondements théologiques de la synodalité sont ceux-là même de l'ecclésiologie de communion développée par le Concile Vatican II dans Lumen Gentium, en particulier à travers la revalorisation du baptême et du sensus fidei des fidèles. Il faut préciser que si la synodalité manifeste le caractère pèlerin et missionnaire de l'Église, elle insiste sur la catholicité de celle-ci. Dans ce sens, par la synodalité, l'Église réalise ce que le document appelle la périchorèse ecclésiologique de l'inhabitation mutuelle de l'universel dans le local et du local dans l'universel. La synodalité de tous les fidèles manifeste aussi l'apostolicité de l'Église, car elle est indissociable de la collégialité épiscopale fondée sur la succession apostolique. La synodalité articule ainsi trois dimensions, tous, quelques-uns et un. Elle implique en effet à tous les niveaux de l'Église l'exercice communautaire du sensus fidei, mais aussi le ministère collégial des discernements et enfin les ministères d'unité. La synodalité ne doit donc pas être comprise au sens d'un conciliarisme ecclésiologique ni d'un parlementarisme politique. Je fais remarquer ici que le pape François, dès la messe d'ouverture de la première assemblée du synode, avait averti à deux reprises, comme il avait d'ailleurs déjà fait à beaucoup d'autres occasions. Nous sommes à l'ouverture de l'assemblée synodale, et nous n'avons pas besoin d'un regard immanent, fait de stratégies humaines, de calculs politiques ou de batailles idéologiques. Nous ne sommes pas ici pour faire un parlement, mais pour marcher ensemble sous le regard de Jésus. Les fondements théologiques de la synodalité étant rappelés, nous pouvons donc venir à une lecture théologique du processus synodal en cours. Une assemblée selon le Christ et l'Esprit, et non une réunion selon le monde. À la fin de sa méditation qui a ouvert les travaux de la première session en octobre 23, le pape François précise de nouveau « Souvenons-nous qu'il s'agit non pas d'un rassemblement politique, mais d'une convocation dans l'esprit, non pas d'un parlement polarisé, mais d'un lieu de grâce et de communion. » Et le pape place le travail synodal sous le signe essentiel de la prière et de la conversation dans l'esprit. Cette approche théologale au travail synodal a fait opérer un passage d'une réunion selon le monde à une assemblée selon le Christ et l'Esprit. On peut parler même d'une expérience pascale. En parcourant l'instrumentum laboris de la première session, on a pu noter le mot « Église » apparaissait 500 fois dans le document, tandis que le nom de Jésus n'y figurait que 5 fois. Il y a des gens qui tirent la conclusion que Jésus n'est plus important pour l'Église. Or, une authenticité ecclésiologique n'est possible sans celui en qui tout repose. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. Le rapport de synthèse de l'Assemblée d'octobre 23 manifeste que le synode a fait le choix d'un enracinement christologique. C'est en Christ que nous sommes frères et sœurs. La synodalité est définie comme la marche des chrétiens avec le Christ vers le royaume. Elle implique de rechercher le consensus comme expression de la présence du Christ dans l'esprit. La synodalité s'inscrit donc dans une logique christologique, sotériologique, pneumatologique et eschatologique de la recherche du service et de l'annonce du royaume qui vient. L'option préférentielle pour les pauvres est présentée dans sa richesse proprement christologique. Jésus, pauvre et humble, s'est lié d'amitié avec les pauvres, a marché avec eux, à partager leur table et à dénoncer les causes de la pauvreté. Pour l'Église, l'option pour les pauvres et les laisser pour compte est une catégorie théologique avant d'être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Un des chantiers théologiques essentiels de la première session est de prouver que le pouvoir de gouvernement dans l'Église ne découle pas exclusivement du sacrement de l'ordre, mais aussi de la mission canonique. Ceci était déjà très présent dans Predicat Evangelium, la réforme de la curie. Pour ce faire, l'aspect service de la fonction dans l'Église doit être mis en exergue. Dans la perspective du Concile Vatican II, Les évêques, en tant que successeurs des apôtres, sont au service de la communion qui se réalise au sein de l'Église locale, entre les Églises et avec l'Église tout entière. Il est donc juste de situer la figure de l'évêque au croisement des relations entre la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée, le presbytérium et les diacres, les personnes consacrées, les autres évêques et l'évêque de Rome, toujours dans la perspective de la mission. La structure même du rapport de synthèse avec les chapitres sur la mission et les femmes dans la vie et la mission de l'Église, placée avant les chapitres sur les diacres et les prêtres, les évêques et l'évêque de Rome, s'inscrit dans une logique analogue. Ainsi donc, la sacramentalité et l'apostolicité de l'Église ne sont-elles pas comprises comme un poids qui l'empêcherait de donner mieux leur place à tous les fidèles, les femmes en particulier, mais au contraire, comme un don qui permet de recevoir toujours plus largement du Christ lui-même le sacerdoce commun offert à tous les baptisés pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Toutes les responsabilités ne sont pas réservées aux ministres ordonnés, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Et le rapport de synthèse souhaite que toutes les missions potentiellement baptismales soient reconnues comme telles et ouvertes aux hommes comme aux femmes. Il faut noter ici que la relation particulière de l'Assemblée synodale de 23 à l'enseignement de Lumen Gentium, à l'Église comprise comme mystère, et la sacramentalité de l'Épiscopat en particulier. On peut lire tout le parcours du synode, enraciné dans la tradition de l'Église, se déroule à la lumière du magistère conciliaire. Lumen Gentium est cité à plusieurs reprises comme une référence à la foi incontournable et pérenne. Au chapitre 2 qui fonde la communion et la mission dans la Sainte Trinité. Au chapitre 8 pour situer la mission qu'est l'Église dans la perspective du royaume. Au chapitre 11 pour bien situer la mission des prêtres et des diacres avant de les remercier et de les encourager. Il est judicieux de rappeler ici que Ranach, malgré une absence d'exposé systématique sur l'Église locale dans Lumen Gentium, voyait déjà dans cette constitution conciliaire la possibilité de comprendre l'Église à partir d'une Église locale concrète, comme l'un des acquis substantiels de l'ecclésiologie de Vatican II, même si cela est encore à l'état germinal plus qu'à l'état d'achèvement. Mais je pense que le professeur Théobald développera cet aspect. Primauté, collégialité, synodalité et unité. Ce sont des thèmes qui ont surgi avec une force inattendue, comme condition de possibilité fondatrice de la synodalité dans tous ces domaines. Il en est ainsi de la relation entre primauté, collégialité et synodalité. Comment on a fait progresser en participation locale de tous les baptisés à la mission de l'Église, si les relations entre l'évêque de Rome et ses services avec l'ensemble des églises particulières ne donnent pas en quelque sorte le ton. Le rapport de synthèse dit « Il est demandé d'étudier la manière dont une compréhension renouvelée de l'épiscopat à l'intérieur d'une église synodale a une incidence sur le ministère de l'évêque de Rome et sur le rôle de la curie romaine. Cette question a des implications significatives sur la manière dont est vécue la co-responsabilité dans la gouvernance de l'église. » Diaconat et diaconie. Ce qui manque à l'Église d'aujourd'hui, c'est moins une doctrine et une théologie du diaconat qu'une conscience suffisante de la racine sacramentelle de l'esprit de service, qui s'incarne dans le diaconat de quelques-uns au profit de l'engagement authentiquement baptismal de tous. Cette conscience sacramentelle renouvelée est la condition de possibilité de l'élucidation de la question du diaconat féminin dont le rapport ne cache pas les divergences qu'il suscite. Divergences qui procèdent moins de la question du féminin que de la question du diaconat abordé de manière plus fonctionnelle que sacramentelle. Je voudrais aussi dire que la question du diaconat ne fera pas partie des délibérations du prochain synode. C'est un des 10 thèmes que nous avons exclus du synode, non pas parce qu'il ne serait pas important, non pas parce que ces thèmes ne brûleraient pas sur les doigts de beaucoup de croyants, mais justement pour que le synode puisse faire son devoir sur la synodalité même. Et les autres thèmes ont été confiés à des commissions qui devront travailler de manière synodale, d'après le Saint-Père, qui les a institués, des commissions qui sont faites des dicastères compétents romains et de théologiens internationaux. Ce sont en général des problèmes qui ont besoin d'une discussion plus longue et plus profonde, et où le synode même ne ferait pas justice au temps et à la profondeur nécessaires. Mais ces commissions seront appelées à présenter leur demi-conclusion, leur état de travail au synode. Donc ce n'est pas une manière de ne pas traiter ces questions, mais c'est une manière de pouvoir les traiter avec justice et justesse, dans le temps qu'il faut. Et permettez-moi de dire encore quelques paroles sur synodalité et théologie de l'inculturation. L'Église synodale étant par nature une Église à l'écoute, la synodalité n'est féconde que dans la mesure où elle sert l'inculturation de l'Évangile et des réalités ecclésiales locales. Les différentes voix qui se font entendre dans un processus synodal permettent de discerner comment l'Évangile résonne dans un tel contexte. Dans ce sens, synodalité et inculturation sont en correspondance. De cette correspondance se dégagent peut-être quelques conséquences pour la théologie de l'inculturation. Deux exemples. La synodalité comme une nouvelle attention aux voix que l'on n'écoutait pas. Ici, l'inculturation passe par les plus pauvres et même commence par les plus pauvres. La correspondance entre synodalité et inculturation éclaire le fait que l'exercice du sensus fidei est situé dans une culture, est influencé par elle. Mais on veillera ici avec discernement au lien organique entre sensus fidei et consensus fidelium. Celui-ci requiert en effet une non-contradiction entre les multiples expressions inculturées de la foi que le sensus fidei inspire aux baptisés. Mais là, il faut encore beaucoup de réflexion. Voilà, je vous remercie pour votre attention à quelqu'un qui n'est pas éminent en théologie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre intervention qui, je crois, montre comment cette question de la synodalité touche tous les aspects de la vie de l'Église. Voilà. Et puis, merci de nous avoir aussi donné des nouvelles sur le travail du synode, avec notamment ce que vous nous avez expliqué sur la manière dont la question, par exemple, du diaconat féminin ne sera pas pris en compte lui-même par le synode, mais continuera à être travaillé. Voilà. Je passe la parole à Christophe pour donc son intervention sur Karl Rahner et le Concile Vatican II, une orientation pour le synode sur la synodalité.
Je profite d'abord de cette occasion comme responsable de l'édition de remercier très chaleureusement Jean-Claude Ulrich parce que il est le président d'honneur et il nous a beaucoup déjà aidés pour l'édition qui, vous imaginez bien, est une œuvre très complexe. On est l'édition allemande à 32 volumes avec un certain nombre de volumes doubles et on est au volume 13, numéro 13. Et donc, je pense pas devoir moi-même l'achèvement de cette œuvre, voilà, qui prendra du temps, mais qui a une grande importance, je pense, dans la situation actuelle de l'Église. Je tenterai un peu de le montrer. Alors, le prédécesseur, je dirais, du cardinal Ulrich, c'était Monseigneur Doré, qui est là aussi. Je le remercie aussi très cordialement, parce qu'il nous a beaucoup aidés pendant 11 ou 12 ans, tout à fait au début de cette édition. Et la troisième personne, c'est Monsieur Clemens Martin de la Fondation Karl Rahner, qui nous soutient évidemment beaucoup aussi d'un point de vue financier et aussi sur le fond, je dirais, de ce travail, parce que cette édition est évidemment aussi une sélection que nous devons faire et qui est proportionnellement juste par rapport à l'ensemble de cette édition. Alors, pour terminer notre parcours et avant d'entrer, je dirais, dans l'échange, je l'espère, je voudrais vous proposer encore quelques réflexions sur Karl Rahner et le Concile Vatican II. Alors, c'est le volume 21 dont il s'agit, qui est sorti en 2015 et qui retrouve, justement, en lien avec le synode, une très grande actualité. Et ici, je voudrais faire mémoire de Joseph Hoffmann, du professeur Joseph Hoffmann, qui a traduit de Strasbourg, qui est mort, qui est décédé, et qui a traduit beaucoup d'autres textes importants pour la théologie, et qui a entièrement traduit ici ce volume, dont existait très peu de textes. Il me semble en effet qu'à la suite des réflexions que le cardinal Ulrich vient de nous partager, la manière ignatienne du théologien allemand de se situer par rapport aux enjeux du Concile peut inspirer notre manière de nous situer dans l'actuel processus synodal. C'est le titre « Inspiration pour l'actuel processus synodal ». Je m'appuierai pour cela sur une importante « questio », le dynamique dans l'Église, c'est le titre « publié en 1958. Dans ce texte, Rahner réfléchit au rapport entre la structure ministérielle de l'Église et ce qui relève de l'ordre charismatique. Thématique qui, dans l'ecclésiologie de Vatican II, deviendra centrale. Dans sa question, le théologien articule une réflexion ontologique sur la concrétitude du singulier, sur ce qui est charismatique dans l'Église et sur la manière ignatienne de le reconnaître, sans occulter les antagonismes et souffrances provoquées par de nouveaux charismes et le courage dont le ministère doit faire preuve en leur présence. Je cite le texte. « Il faut apprendre à reconnaître les charismes dès leur apparition. » Que des tombeaux soient érigés aux prophètes par les enfants de leurs meurtriers. Jésus l'avait déjà observé sans pour autant approuver le sort qu'il avait subi. Que l'on glorifie et canonise les prophètes après leur mort, alors que leur charisme est officiellement reconnu, voilà ce qui est bon et utile. Mais ce qui est presque plus important, c'est de percevoir ces charismes de l'esprit dès leur première irruption, pour qu'ils soient promus au lieu d'être étouffés par l'incompréhension et la paresse d'esprit, quand ce n'est pas la méchanceté et la haine de leur milieu, même ecclésiastique. C'est Rahner. Quant à l'élément charismatique, il est quelque chose d'essentiellement nouveau et il surprend toujours. sans doute était en continuité intime et secrète avec la tradition dans l'Église, et il demeure inséré dans l'esprit et dans le cadre institutionnel de l'Église. Il n'en reste pas moins quelque chose de neuf et de non déductible. Que tout cela puisse coexister dans l'ensemble permanent de l'Église, on ne le voit pas au premier coup d'œil. Fin de citation. L'enjeu de ce bref passage est donc le mystère des commencements nouveaux, qualifiés de charismatiques. Sans oublier, Ranner y est très sensible, que la venue au monde d'un nouvel être humain est la toute première et fondamentale manifestation charismatique de l'Esprit-Saint. Je fais l'hypothèse qu'on peut lire toute la théologie de Karl Ranner dans la perspective des commencements à percevoir. Dès l'Esprit dans le monde, 1939, la question du commencement de la métaphysique s'avère centrale. Après la Deuxième Guerre mondiale, Ranner ne cesse de discerner ces commencements ou émergences de quelque chose de neuf et de non déductible. En 1954, la fin de la chrétienté et la naissance d'une église en diaspora. En 1965, trois jours après la fin de Vatican II, je le cite, le commencement, tout juste le commencement d'un commencement, que représente le Concile désormais achevé. En 1972, au moment du premier synode des diocèses d'Allemagne, quand dans son célèbre écrit sur le changement structurel de l'Église comme tâche et chance, Ranner se rend attentif à un autre commencement, à savoir la place nouvelle que les femmes devront prendre dans les structures de gouvernance de l'Église. Et enfin, en 1983, un an avant sa mort, quand il publie avec Heinrich Fries ses célèbres thèses intitulées « Unification des Églises, une possibilité réelle », appelant un ultime commencement charismatique et simultanément œcuménique, l'unité des Églises dès maintenant possible à celles et ceux qui la désirent en vérité. D'où vient cette sensibilité aiguë de Ranner pour le mystère des commencements? La réponse est simple. Elle vient de sa fréquentation et de son interprétation des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Il est en effet aisé de repérer un parcours ranérien avec Ignace, dont je ne peux signaler ici que quelques étapes. Il commence dans la troisième partie de la Questio déjà citée de 1953, le dynamique dans l'Église, partie intitulée « La logique de la connaissance existentielle chez Ignace de Loyola ». Ce parcours s'enrichit ensuite d'un texte post-conciliaire de 1974, « Piété moderne et expérience des exercices », et s'achève en 1979 avec deux articles sur le Concile, « L'importance de Vatican II qui demeure » et « L'interprétation théologique fondamentale du Deuxième Concile du Vatican ». Progressivement, et précisément grâce à l'expérience du Concile, Ranner passe d'une interprétation individuelle des exercices centré sur l'événement spirituel de l'élection, à une lecture ecclésiale, fondée sur l'appel charismatique du sujet collectif qu'est le peuple de Dieu à choisir sa route dans l'Esprit-Saint, et finalement à une interprétation pneumatologique de l'histoire tout entière du christianisme. C'est ça que je voudrais brièvement montrer. Ce ne sont donc pas les grandes thématiques traité par l'expert du Concile, révélation, écriture et tradition, Église, volonté universelle salvifique de Dieu, athéisme, etc., qui m'intéresse ce soir, mais l'attention très fine de Ranner à ce qu'on peut appeler la spiritualité conciliaire. Ranner l'aperçoit dans le lien entre deux attitudes, celle de la sobriété, Nüchternheit, et celle du courage, Mut. Le courage, lisons-nous dans sa relecture de la deuxième période, donc en 63, je le cite, « Courage qui risque une décision et qui peut entendre également une orientation de Dieu dans la voie du temps. » La sobriété, Nüchternheit, qui n'identifie pas tout simplement son propre esprit avec celui de l'Église et qui n'impose aux autres que ce qu'ils peuvent et doivent porter. Et le mélange et l'unité juste entre ces deux attitudes, courage et Nüchternheit, sobriété, pour Suiraner, est en fin de compte toujours ce qui est impondérable, qui n'est pas planifié et calculé clairement par les hommes, mais qui, du point de vue de l'histoire, apparaît comme un hasard de la constellation historique, et qui est accueilli dans la foi comme la disposition de Dieu. Fin de citation. Cette double attitude, qui est aussi celle de Raner, le rend particulièrement attentif aux différences de mentalité entre la majorité et la minorité du Concile. La nécessité de distinguer nettement entre le climat du moment, ou telle mentalité d'un côté, et des énoncés doctrinaux ou des dispositions juridiques provenant du Concile de l'autre. Je le cite. Dans cette distance entre mentalité conciliaire et décret définitif, se trouve le lieu où se situe aussi bien le travail théologique humain que l'influence secrète de l'Esprit de Dieu qui joue dans ce travail et au-delà. Le lieu de la clarification de ce climat intellectuel précisément qui conduit à une doctrine ou à une détermination juridique de l'Église. Fin de citation. L'enjeu du débat conciliaire est en effet l'entente entre tous. Ce qui suppose que malgré l'indépassable différence des mentalités, chacun est prêt à apprendre de l'autre. Raner l'explicite à partir du cas exemplaire de la mariologie. Vous savez que c'était un sujet très très difficile au moment du concile. C'est ici qu'une comparaison qu'il fait entre les parlements modernes et l'assemblée conciliaire s'avère instructive, dans la mesure où cette dernière, l'assemblée conciliaire, ne connaît pas des vainqueurs et des vaincus, et reste jusqu'au bout portée par la recherche de ce qui est commun à tous, s'appuyant sur un autre esprit et style de débat, qui renvoie ultimement au travail de l'Esprit au sein de l'Église. À l'arrière-plan de cette sensibilité spirituelle, très développée chez Raner, se situe donc l'interprétation ranérienne des exercices. En 1953, dans son essai sur la logique de la connaissance existentielle chez Ignace de Loyola, il s'intéresse prioritairement au déroulement de l'élection, affirmant que c'est le deuxième temps qui est le temps normal. Je cite, « Quand on reçoit suffisamment de lumière et de connaissance par l'expérience des consolations et des désolations, et par l'expérience du discernement des esprits, c'est le numéro 176 des exercices spirituels. Ce qui ressort, dit Raner, du simple fait que même le troisième temps, qualifié de tranquille et occupé par l'exercice normal de nos facultés naturelles, reconduit le retraitant vers les deux premiers temps, précisément parce que l'élection n'est pas seulement ce que l'homme choisit après une réflexion, mais ce que l'Esprit de Dieu lui communique. Or, pour cela, on ne peut se contenter d'une reconnaissance a posteriori de l'arbre à ses fruits, ce qui est la règle néo-testamentaire du discernement. Le discernement ignatien de la volonté absolument unique de Dieu pour quelqu'un, ici et maintenant, repose tout entier sur la possibilité de voir clair à partir du commencement de l'expérience. ce moment mystérieux où se manifeste l'origine, seule l'expérience immédiate de Dieu, la consolation sans cause précédente, pouvant décider avec certitude si oui ou non l'élection s'enracine dans l'Esprit de Dieu. Le discernement du deuxième temps est donc de l'ordre de l'expérimentation. C'est sur ce point si décisif que je voudrais attirer notre attention, l'expérimentation. Je cite Ranner. Il ne peut s'agir que de confronter fréquemment l'objet de l'élection et la consolation originaire, afin de connaître par l'expérience si ces deux phénomènes concordent intimement et se trouvent mutuellement. La volonté se portant vers l'objet, le choix que je dois faire, dont il s'agit dans l'élection, laisse-t-elle intacte cette pure ouverture vers Dieu dans l'expérience surnaturelle de la transcendance, voire la favorise-t-elle et l'amplifie-t-elle? Ou bien l'atténue et l'éclipse-t-elle? Entre les deux attitudes, pure ouverture, concrètement réalisée et non en tant que principe théorique, et vouloir se porter vers l'objet de l'élection, une synthèse se traduit-elle en paix, repos, quiétude, de manière à faire naître la vraie alacrité et la joie spirituelle? Fin de citation. C'est précisément cette idée de l'expérimentation qui, au Concile, révèle des dimensions collectives toutes nouvelles. Sans abandonner du tout la radicalité du discernement ignatien orienté vers ce qui se manifeste dans l'émergence charismatique de ce qui est nouveau et indéductible, Ranner l'élargit progressivement au sujet collectif qu'est l'Église tout entière, non sans rappeler la deliberatio communitaria du groupe des premiers compagnons jésuites. En effet, il ne souligne plus seulement la nécessité pour le croyant de fonder sa vie dans un monde devenu radicalement séculier, sur une véritable expérience de Dieu. Le fidèle de demain devra être un mystique qui fait une expérience de Dieu où il ne sera plus, écrit Ranner en 1966. Ranner postule encore une nécessité analogue pour l'Église en tant que sujet historique, devenu mondial, mais partout en situation de diaspora. La traversée des grands seuils de la modernité lui a révélé, en effet, douloureusement, dit Ranner, sa radicale historicité. La figure, gestalt, qu'elle prendra cette Église demain, ne se laisse jamais déduire intellectuellement de son essence eschatologique. Précisément parce que l'histoire confronte l'Église sans cesse avec ce qui est unique et imprévisible. L'appel au diagnostic historique et au discernement des esprits qui intervient à cet endroit, au niveau collectif, s'enracine dans la constitution pneumatologique ou charismatique de l'Église. Son autoréalisation est discernement historique, dit Ranner. En 1974, Ranner rappelle ses réflexions devant des directeurs de retraite. Non seulement les ordres religieux, dit-il, mais aussi d'autres groupes d'églises, comme le presbytérium d'un diocèse, un chapitre ou un conseil paroissial, voire toute une communauté ecclésiale peuvent et doivent chercher la volonté de Dieu quand ils s'apprêtent à prendre des décisions quant à leur avenir. Le théologien résiste ici à ce que celles-ci, ces décisions, soient prises uniquement en fonction de mécanismes ou raisonnements profanes, ou encore dans le cadre d'une structure paternaliste, où un seul décide à la place des autres. L'enjeu est la découverte de l'Église comme sujet, aux prises avec des formes supérieures de socialisation, ce qui est la signature des temps qui suivent la modernité, le dépassement de la figure nationale, si vous voulez, je dirais, vers des continents, des regroupements, etc. Rahner ne développe pas ces nouvelles formes collectives des exercices, nécessaires à l'autoréalisation de l'Église, mais il veut encourager ceux qui donnent les exercices à prendre conscience de ce qu'ils pressentent, sans doute instinctivement, et à chercher activement cette nouvelle figure dans laquelle l'Église peut se réaliser aujourd'hui de manière neuve. Une dernière étape est franchie en 1979. Quand Rahner met le projecteur sur Vatican II comme événement et corpus et situe l'unicité du Concile dans l'ensemble de la tradition chrétienne. Certes, cette tradition s'enracine dans le sacrement originaire qu'est le Christ Jésus et prend la forme ecclésiale de sacrement fondamental du salut du monde. Michel Fédou nous en a parlé tout à l'heure. Mais précisément, parce qu'elle est livrée, cette Église, à l'imprévisible histoire, elle doit compter avec des commencements au pluriel, des émergences au pluriel de quelque chose de neuf et de non déductible, comme manifestation de la venue de l'Esprit de Pentecôte. Rahner discerne plusieurs de ces commencements charismatiques, je les ai mentionnés, voilà. Mais en 1979, il en distingue trois commencements majeurs, ou trois grandes époques, grosses époques, de l'histoire du christianisme. Premièrement, la brève période judéo-chrétienne. Deuxièmement, celle de l'Église dans une culture déterminée, l'hellénisme et la civilisation européenne. Et troisièmement, la phase actuelle où l'espace ecclésial est d'emblée le monde entier. Ces trois époques se caractérisent précisément par trois situations fondamentalement différentes en ce qui concerne l'annonce de l'Évangile et la place de l'Église dans la société. La tripartition s'impose selon Rahner, si l'on tient compte du fait que jusqu'à maintenant, le passage d'une situation historique et théologique à une autre, substantiellement neuve, ne s'est produit qu'une seule fois, et qu'actuellement il est en train de s'effectuer une seconde fois, grâce à la naissance d'un christianisme mondial. Sans doute avez-vous déjà, j'arrive à la fin, anticipé ma réponse à la question initiale de savoir en quoi l'interprétation du Concile Vatican II par Karl Rahner peut inspirer notre manière de nous situer dans l'actuel processus synodal. Il me semble pouvoir discerner chez Rahner trois orientations décisives pour nous aujourd'hui. Premièrement, d'abord et avant tout l'émergence de quelque chose de neuf et de non déductible. Un nouveau commencement, qui dans son dernier chapitre, le document de synthèse du synode, résume ainsi. Le processus synodal a été et est en même temps, le processus synodal a été et est un temps de grâce qui nous a encouragés. Dieu nous offre l'occasion de faire l'expérience d'une nouvelle culture de la synodalité, quelque chose qui est non déductible, qui est neuf, capable de guider la vie et la mission de l'Église. Le père Rahner disait un jour dans le catholicisme, je l'ai entendu moi-même le dire, il est plus aisé d'interpréter des dogmes que de déplacer les bancs d'une Église. Or, c'est ce que le synode romain a fait. Il a obligé l'Église à quitter les gradins hiérarchiques de Vatican II et de l'hémicycle de la salle synodale au profit de 39 tables rondes, suggérant la parabole de la salle des noces et rendant possible une circulation synodale non hiérarchique entre tous. Commencement d'un commencement, tout juste un nouveau commencement. Deuxièmement, Rahner n'a pas développé de nouvelles formes collectives d'exercice nécessaires à l'autoréalisation d'une Église mondiale aux prises avec des formes supérieures de socialisation. L'actuel synode l'a fait en introduisant dans les délibérations la méthode de la conversation dans l'esprit, méthode pneumatologique qui est bien plus qu'une méthode, car elle réalise et manifeste le centre même de la tradition chrétienne, à savoir l'expérience de l'écoute, de la résonance en chacun, chacune, de ce qui est entendu et de la parole qui y répond librement avec parésie. Car nous entendons la parole même de Dieu telle qu'elle résonne dans l'évangile de son règne, annoncé et vécu par son unique, le Christ Jésus, quand nous percevons l'écho de cette voix dans ce que l'autre nous communique de sa propre expérience. Quand en même temps nous nous laissons rejoindre par les multiples voix humaines qui nous entourent et atteindre jusque dans nos entrailles par le cri de tel proche tombé sur la route. Quand enfin nous écoutons les souffrances silencieuses qui montent de la terre et du vivant. J'aime bien appeler ça une écoute stéréophonique. Et il me semble, c'est peut-être là le kairos de notre époque. Nous disons toujours la parole de Dieu, l'écriture, etc. Mais l'expérience de l'écoute stéréophonique, c'est peut-être quelque chose de nouveau et qui nous fait refaire peut-être notre théologie de la parole de Dieu. On peut espérer que dans cette écoute discernante, toujours menacée par des simplismes, des malentendus et un certain présentisme, la théologie, voire les théologies continentales, trouvent progressivement leur place. Comme à l'époque de Vatican II, il leur revient en effet de profiler l'émergence charismatique de ce qui est nouveau au sein de l'histoire longue et géographiquement différenciée du christianisme. Un dernier point pourra encore nous inspirer. Rahner a su traiter une multitude de questions de détail, abordées avec grande technicité, sans jamais perdre de vue l'ensemble, sans jamais laisser des préoccupations centrées trop immédiatement sur l'avenir de l'Église, occulter les questions fondamentales de la foi, les dimensions démesurées de l'histoire de l'humanité et de l'univers, et l'infinité incompréhensible du Dieu qui se rend proche en Jésus de Nazareth. Le synode a soulevé plus de 70 questions, celle de Vatican II revisitée, et bien d'autres nouvelles questions encore. On peut espérer que leur traitement, aussi indispensable qu'il soit, ne nous éloigne pas de l'unique nécessaire, à savoir de l'expérience théologale de Dieu, au sein d'une église d'église, au sein d'une église d'église, qui doit et qui doivent trouver et inventer de nouvelles figures en discernant synodalement ce que l'Esprit ne cesse de leur dire. Je vous remercie.
Un très grand merci, Christophe, pour cette vision d'une Église sans cesse en genèse, comme sujet collectif, comme tu dis, qui est capable de se renouveler en profondeur dans l'écoute de l'Esprit. Voilà, et tu indiques comment l'expérience du synode est vraiment un rendez-vous pour cela, important, aujourd'hui. Voilà, nous avons maintenant du temps pour échanger avec nos intervenants. D'abord, on va pouvoir peut-être prendre le micro. Le micro-baladeur. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à faire signe si vous voulez questionner, commenter, apporter votre contribution. La
La première est toujours la plus difficile.
Merci à vous tous pour vos interventions très très suggestives. Merci à Christophe qui vient de parler à l'instant. Ma question évidemment est trop simple, mais elle m'est suggérée par ce qui vient d'être dit. Mais comment l'esprit parle dans le synode? Comment recevoir cette parole qui vient de plus loin que nous, qui est reçue alors dans une communion, et sans doute l'esprit est là déjà dans cette communion, enfin ne serait-ce que déjà les tables partagées, etc. Enfin, la disposition matérielle veut signifier quelque chose de cela, mais dans la pluralité des questions d'aujourd'hui, dans la complexité des questions à l'échelle mondiale, mais même à l'échelle de chaque pays, de chaque continent. Qu'est-ce qui se forme? Comment peut être entendu? Voilà. La voix qui permet à l'Église de passer à une figure d'elle-même nouvelle.
Peut-être on peut prendre plusieurs questions à la fois. Donc il y avait une autre question là.
Oui, François de Monlot. Par rapport à la publication des œuvres complètes de Ranier qui m'intéresse beaucoup, je voudrais savoir si le programme des sorties des œuvres est annoncé quelque part, parce que je l'ai pas trouvé. Et la deuxième question qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'il y a une programmatique, ou je sais pas comment le dire, des différents, parce qu'il a beaucoup écrit Ranner, de ce que vous allez mettre dans chaque œuvre dans l'avenir. Parce que bon, vous avez des textes qui sont en allemand qui sont quelquefois même introuvables, et c'est intéressant de savoir à quel moment ils vont faire l'objet d'une publication. Voilà, c'est ma question.
Moi, je poserais bien moi-même une question, à la fois au cardinal Ulrich et puis à Christophe. Il me semble, est-ce qu'on pourrait dire que dans la réflexion du synode, il y a, disons, un poids de plus en plus grand, il me semble, qui est donné à l'écoute des personnes très pauvres, notamment de ceux qui d'habitude, qu'on n'entend pas, justement. Et je trouve ça vraiment très intéressant. On avait eu ici une journée d'études sur cette question-là, justement, il y a un an et demi ou quelque chose comme ça, en disant, est-ce qu'une vraie synodalité, selon l'Évangile, ne nous invite pas à ce rendez-vous-là, à cette ouverture, disons, à cette disposition fondamentale à l'écoute de ceux qu'on n'entend pas. Voilà. Et est-ce que cette disposition-là n'est pas finalement très similaire avec l'écoute de ce que Dieu nous dit en nous, et qui se dit dans le silence aussi. Voilà. Quand on apprend à entendre ceux qui ne parlent pas, est-ce que ça apprend pas aussi, ou est-ce que ça n'éveille pas aussi à l'écoute de celui qui ne parle pas comme ça, disons, voilà. Voilà.
Il y a Alain aussi. Oui, Alain Thomassé. Je voudrais revenir, Christophe, sur ce que tu disais sur l'attention de Ranner aux exercices. Je suis très frappé dans son œuvre sur l'insistance qu'il met à la singularité de l'appel de Dieu en chacun, qu'on voit d'ailleurs réapparaître avec le pape François dans cette insistance sur les singularités des parcours, des histoires, et ce qui n'est pas sans provoquer des remous. On le sait bien, puisque ça complique la pastorale, tout en la rendant plus humaine et plus attentive à chacun. Mais du coup, La question qui se pose, c'est comment on peut concilier cette singularisation des vocations, en quelque sorte, et ce que tu as évoqué comme un discernement collectif. Comment comprendre cette convergence, on pourrait dire, des appels singuliers dans un discernement collectif? Est-ce que Rainer a donné des pistes pour ça? Ce serait précieux.
Peut-être on peut s'arrêter là pour cette première salve de questions. Alors, je ne sais pas qui veut commencer.
Donc, je ne peux pas parler des œuvres de Karl Rahner, l'expert est de l'autre côté, mais nous distinguons en général maintenant entre discernement personnel, discernement communautaire et quelque chose de nouveau qui peut-être a été vécu la première fois de manière consciente au synode, discernement ecclésial, comme une nouvelle forme de discernement. Et ce discernement ecclésial, alors, change la manière dont nous interprétons, par exemple, Vatican II. Si je regarde le concile les autres conciles, les grands conciles, ils ont été interprétés comme un corps de textes et l'interprétation de ces textes. Avec ce discernement ecclésial, nous avons toujours de nouveaux commencements, comme disait le père Théobald, et il y a une dynamique qui se dégage du Concile Vatican II et qui nous mène dans l'avenir. Et c'est pas quelque chose qu'on peut préfabriquer. Donc, nous ne savons pas, heureusement, ce que sera la conclusion du synode. Parce que nous croyons vraiment que c'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste qui doit nous guider. Et le fait d'avoir eu une retraite auparavant, il y aura de nouveau une retraite avant la session 24. Malheureusement pas à Sacrofane ou hors de Rome, les temps pressent, alors nous serons à Rome même pour cette retraite, mais ce sera précédé d'une retraite dont les plénières, déjà depuis les synodes précédents, il y a des moments de silence. Et dans ces moments de silence, chacun est invité à une vraie écoute, c'est-à-dire je ne dois pas percevoir les contributions des autres comme des positions ennemies, contraires aux miennes, où j'ai le temps de réfléchir comment contrecarrer cela, mais d'accepter, au moins en partie, ce que je peux accepter de ce que l'autre a dit, et alors il y a quelque chose de nouveau qui se dégage. L'Esprit Saint nous mène vers des choses nouvelles. Et c'est pas une querelle entre point A et point B, mais en écoutant dans une conversation dans l'esprit les points A et les points B, il y aura peut-être le point gamma qui apparaîtra. Et je le nomme gamma dans l'alphabet grec pour montrer que c'est quelque chose de différent que les deux autres positions, les deux premières positions. Et je pense que c'est ça l'expérience de la première session du synode. Et je pense aussi que ce changement d'époque dont le pape parle très souvent, c'est quelque chose de fondamental. Et nous sommes dans l'année zéro de l'intelligence artificielle. Et ces temps nouveaux arriveront avec une rapidité. Et si nous ne faisons pas attention dans l'Église, toute notre pensée chrétienne risque d'être chassée par des vagues, de nouvelles vagues de culture, etc., qui vont s'établir. Et pour moi, c'est presque providentiel qu'à ce moment, l'Église redécouvre la synodalité. Parce que c'est une manière de réfléchir l'appel de l'Église, parce que l'Église se définit par l'appel qu'elle a reçu de Dieu, vers le présent et l'avenir. Vers le présent tout d'abord, l'avenir est incertain, mais l'avenir est dans le présent. Et si nous répondons au présent, voilà pourquoi moi je ne suis pas préoccupé que des questions essentielles, j'ai parlé du diaconat des femmes, il y a d'autres points plus concrets, comme comment nommer les évêques, qui est quand même une question importante, et dans ces commissions. Et je ne pense même pas que les commissions seront la fin de cela, mais que la structure synodale de l'Église permettra une approche tout à fait différente, qui ne sera pas basée sur des lobbies différentes, qui ne sera pas basée sur des positions théologiques cimentées, mais où l'Église, en toute sérénité, avec ses pasteurs et avec le successeur de Pierre, pourra discerner l'appel de Dieu dans le présent pour être présent dans l'avenir. Je ne sais pas.
Oui, c'est vrai, avec les 10 commissions, on est en train de jouer les prolongations. Et on ne sait pas comment le jeu va se terminer. Ça, c'est vrai, heureusement. Mais je voudrais répondre d'abord à la question un peu d'Henri Lau. Comment l'esprit parle-t-il? Évidemment, c'est une question tout à fait décisive. Et je rappelle ici simplement, je veux dire, une formule du d'abord. C'est d'une extrême complexité, évidemment, aujourd'hui, tu l'as souligné, et il est important de retrouver au sein même de cette complexité quelque chose de simple. Est-ce que l'esprit parle? Le credo dit, il a parlé par les prophètes, et donc il parle par, c'est-à-dire par des hommes et des femmes, etc. Voilà. C'est une première chose. Et ensuite, il a parlé par le prophète, et je crois en Église, etc. Vient tout de suite l'Église, et cette sorte de prétention fondamentale, qu'on a d'ailleurs dans Lumen Gentium, dans le chapitre 2, c'est-à-dire le ministère prophétique de l'Église, de parler dans l'Esprit. Donc ça, c'est sans doute, je dirais, une première chose que aujourd'hui nous recommençons à nouveau, je dirais, à réaliser dans toute sa complexité. Parce que pour pouvoir parler, le Deutéronome, écoute Israël, il faut d'abord faire l'expérience, je dirais, de l'écoute. Et c'est ça, sans doute, je dirais, le déplacement qui est en train de se produire, et l'écoute impliquant Hartmut Rosa, la résonance, la question de résonance, de laisser le temps de résonner ce que j'écoute, que j'entends de l'autre. D'où l'importance du silence et d'entendre tout un coup des voix qu'on a jusqu'à maintenant jamais entendues, des émergences nouveaux. Et c'est là où apparaît peut-être quelque chose de fondamental, je dirais, de la pneumatologie qu'on trouve chez Paul, c'est-à-dire la diversité, chacun, et c'est infini, quasiment infini, personne entend la même chose que l'autre. Et donc on est dans une diversité incroyable, et en même temps il y a l'orientation, vous l'avez évoqué, Jean-Claude, tu l'as évoqué, le consentir, le consensus universel. Et c'est au fond cet itinéraire de la diversité, vers le consensus universalis qui n'est jamais achevé, c'est là le chemin où le chemin synodal intervient. Et donc il s'agit d'écouter les expériences des unes et des autres, mais deuxièmement, ce qui est peut-être apparu pendant le synode, c'est la complexité des questions, parce que peut-être peut-on quand même dire, Jean-Claude, que c'est la première fois qu'une sorte de liberté de parole a été offerte de telle manière qu'aucune question a été exclue. Et on est devant cette sorte de complexité, Et alors l'esprit, toujours la même question, comment parle-t-il? C'est là où intervient la question ignatienne, c'est-à-dire il intervient dans cette expérience de certitude, je dirais joyeuse, paisible, toujours provisoire, de nouveau livré à l'histoire quand tout un coup une décision est prise. Voilà. Et donc ce qu'on peut attendre, que le synode, à un moment donné, accède non pas uniquement, je dirais, à des idées générales sur la synodalité, mais qu'il accède, premièrement, à une manière de prendre les décisions dans l'Église, en écoutant l'Esprit, et qu'il prend effectivement des décisions significatives pour nous aujourd'hui. Voilà, je dirais un peu ça comme réaction rapide, mais je pense que c'est aujourd'hui qu'on se rend tout un coup compte de la complexité. Ignace se rendait compte de la complexité d'une démarche de prendre des décisions selon la volonté unique de Dieu pour un tel. Et aujourd'hui, et ça j'ai essayé de le montrer, Ranner en était déjà très conscient de ça, la complexité pour une Église mondiale de prendre des décisions dans l'Esprit Saint, et pas uniquement, voilà, de s'affronter au niveau réflexif. Voilà, ce que je dirais un tout petit peu, c'est aussi une manière déjà de répondre, je dirais, à la question d'Alain, voilà. Le problème du singulier, je dirais, et du collectif. Et donc, le prochain volume des œuvres de Ranner qui va sortir, c'est le volume 19, qui porte sur la théologie pratique pastorale de Ranner. Et c'est précisément dans ce volume, né après Vatican II, en raison de l'insistance de Vatican II sur la pastoralité de la doctrine, où lui-même, avec d'autres, collectivement, synodalement, a développé toute une critériologie, précisément, qui est un peu ce que tu te demandes, toute une critériologie pour passer du singulier à des décisions de type collective. Voilà, je ne sais pas si on a répondu. Il y a encore la question très concrète, c'est-à-dire l'annonce des volumes, c'est-à-dire ça reste, je dirais, un travail, je dirais pas d'improvisation, mais il y a une équipe qu'on trouve indiqué ici dans les volumes, qui détermine les volumes. Et chaque volume, je le disais tout à l'heure, ne reproduit pas intégralement le volume allemand. C'est pas possible et c'est pas nécessaire non plus. Et comment dire, il est proportionnellement juste chaque volume dans la mesure où les axes fondamentaux et les textes fondamentaux, Michel l'a montré tout à l'heure par exemple, pour le volume sur la corporéité de la grâce, c'est proportionnellement juste. Donc ce qui veut dire quand même qu'il y a des choses qui manquent. Et pour le moment, c'est le volume 19 qui est en préparation pour cette année. On aura ensuite, je dirais, un volume, Olivier, aide-moi, parce que c'est le 9, oui, c'est sur la mariologie. Oui, c'est ça. Sur tout ce que Ranner a fait autour du dogme de l'Assomption, sur la mariologie, il y a un autre volume aussi qui est sur la spiritualité de nouveau. C'est le numéro, et le numéro 5, le volume 5, c'est son grand traité sur la grâce qu'il a enseigné à Innsbruck. Voilà les prochains volumes, mais c'est impossible de prévoir plus que ça, parce que chaque fois c'est une question financière. Pour vous dire, je dirais, un volume maintenant, ou pour les traductions, on passe facilement, je dirais, facilement un budget de 20 000 euros, hein, facilement, ou même plus. Donc il faut les trouver, hein. Et il faut surtout trouver des traducteurs compétents qui peuvent faire ce type de travail.
On peut reprendre encore quelques questions.
Monsieur Étienne, vous avez parlé de la journée que nous avons ici avant le synode. Et il y a eu des groupes qui se sont retrouvés.
Est-ce que vous pouvez parler bien dans le micro?
Ça fait rien.
Si.
du côté Resto du Cœur, Soupe Populaire, Aurore, nous avons fait un compte rendu. Et là, ce soir, je ne vais pas rester avec ce que j'ai reçu là. Il faut passer de gamma, revenir à alpha. Car vous avez vos feuilles, vos... C'est très, très, très intéressant pour nous. Voilà. Et donc, tant qu'on est là, bon, moi, je n'ai pas de sous. Je pense que je n'en aurai jamais, je ne joue pas au loto. Mais je comptais, c'est la dame aussi, madame, votre travail là que vous nous avez donné, vous vous rendez compte combien de personnes apprécieront. Bon, et chacun, alors rassemblez ces feuilles, là, avant de vous quitter ou de les archiver, et vous faites un truc. Et puis, s'il y a des sponsors, et voilà, voilà. Il n'y a rien à enlever.
Merci.
Rien. Ouais. Et ajoutez aussi ces petits commentaires précieux, là, à partir des questions. Voilà, c'est tout.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, là.
Réaction?
Juste pour poursuivre la question sur l'écoute. Parfois, on dit qu'on entend seulement ce qu'on a déjà entendu. C'est pas facile d'entendre une voix neuve, totalement nouvelle. Est-ce que vous pouvez partager quelque chose sur comment on peut faire ce changement de niveau, de AB à gamma? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous amène, la dynamique qui nous aide, ou la logique qui nous empêche de faire ce déportement, d'ouverture à la voie différente?
Peut-être en prendre encore une seule question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà, ce sera la dernière question. Ouais.
C'est là. Ouais. Comment mettons ensemble ce que nous voulons faire avec la synodalité dans une paroisse? Comment est-ce que ça se met en route?
Vous avez entendu. Ouais. Voilà, donc...
On commence parce que les réponses plus profondes viendront de là, donc il a besoin de réfléchir. Moi, je réagis. Pour la première question, je pense que c'est l'indifférence des exercices de Saint-Ignace. Il nous faut savoir ce que l'on fait. Et cette indifférence qui est dans les exercices est aussi bien pour celui qui fait les exercices que pour celui qui donne les exercices. Mais nous met dans une condition où on peut être à l'écoute de Dieu. Et c'est la même chose au synode. Mais il y a de petits miracles aussi qui se passent. Parce que je ne dis pas de secret qu'il y a des gens qui viennent au synode qui sont farouchement opposés. Et qui sont déjà décidés avant de commencer de voter contre tout paragraphe, etc. Et là, il y a quand même des changements qui se font. Il y en a qui sortent comme ils entrent. Non. Mais c'est une très petite minorité. Je me rappelle une sœur que j'estime beaucoup, qui est très conservatrice. Et elle me regardait comme un cardinal qui veut changer l'Église maintenant. Donc elle me regardait, c'est quelqu'un qui veut maintenant utiliser le synode pour venir à ses fins. Il veut transformer l'Église comme il veut, en manipulant le synode. Et au milieu du synode, elle est venue me trouver et m'a dit « Mais je me suis complètement trompée sur toi. » Et sur ce que le synode veut faire. Je vois maintenant que c'est autre chose. Et elle a voté en faveur des textes, ce qu'elle n'aurait certainement pas imaginé au moment, au début du synode. Parce que cette sœur était ouverte à l'esprit. Et chacun vient avec ses présupposés. Et puis, on est changé par cette expérience. Il y a un moment au synode où une jeune femme a parlé et elle a changé l'atmosphère. Le témoignage qu'elle a donné, je ne peux pas le dire exactement ce que c'était parce que ce serait aller contre la liberté aussi de cette femme de s'exprimer dans un lieu sûr, a transformé les cœurs des gens qui écoutaient. Et c'était formidable comment le synode a vécu. J'ai vu deux évêques allemands qui ne se parlaient plus dans le chemin synodal allemand, qui en rigolant ont fait une photo d'eux et qui ont toujours des opinions différentes sur beaucoup de questions, mais qui se sont découverts frères dans l'Église. Et ça, c'est un peu le miracle du synode.
Oui, c'est une manière, encore une autre manière de répondre à la question d'Henri de tout à l'heure. C'est-à-dire, comment discerner la présence de l'Esprit? Comment parle-t-il, hein? Qui parle par les prophètes, mais les prophètes, c'est tous les baptisés, voilà. Par la conversion. Par l'expérience de la conversion, du retournement qui peut se faire, et qui est effectivement, je dirais, une des grandes expériences qui a été vécue. Moi, j'aurais aussi des exemples de ce type, je dirais, à donner, des gens qui ont changé. Je pense que j'ai changé moi-même aussi sur un certain nombre de points en écoutant. Mais il faut du temps, et c'est peut-être là une première condition. À une époque, je dirais, de se réunir pendant un mois, comme ça, c'est totalement contre-culturel. Contre-culturel. De prendre le temps. Le temps pour écouter. Écouter prend vraiment le temps. Et alors ensuite, je dirais, il y a peut-être une deuxième chose qui est importante, qu'on découvre aussi, c'est-à-dire pour les paroisses. C'est-à-dire, on est habitué, je dirais, aux deux tables de l'Eucharistie. L'écoute de la parole de Dieu, médiatisée par l'Écriture, etc. Et la réponse, oi angelion, oi charistia, voilà la doxologie. C'est les deux pratiques, je dirais, fondamentales. Et tout un coup s'inscrit là une troisième pratique nouvelle, parce qu'on découvre que le passage de l'écoute à l'action de grâce eucharistique dans le Christ, ça ne va pas de soi. À cause de la complexité de nos existences humaines, individuelles et collectives. Et donc il y a un hodos, un chemin, un synodos qui s'inscrit entre l'écoute de l'Évangile et l'action de grâce, qui prend du temps. Et là, je trouve qu'il y a toute une pédagogie qui doit s'inscrire aussi dans nos paroisses. C'est-à-dire, on a quelques institutions, je dirais le conseil pastoral, l'équipe pastorale, etc., les assemblées paroissiales. On a des petites institutions, mais qui sont souvent très vides et qui ne sont pas des lieux, qui sont des lieux d'organisation, mais qui ne sont pas des lieux, je dirais d'abord, d'écouter réellement ce que l'autre peut apporter et d'écouter du nouveau, voilà. Et donc, à mon avis, c'est là toute une... C'est pour ça que le concile, le synode est le synode est le commencement d'un commencement. C'est une nouvelle culture qui prend du temps, qu'on change pas par des administrations ou des indications, des lois, etc.
pape François vient de dire récemment que le conseil pastoral, paroissial, n'est pas un lieu d'organisation des actions. On a besoin aussi d'un tel lieu dans une paroisse, non ? Mais c'est vraiment ce doit être un lieu, un conseil, où des choses nouvelles, des réalités nouvelles puissent aussi émerger. Non ? Dans mon diocèse, conseil pastoral diocésain va dans les différentes régions du diocèse pour parler aux conseils pastoraux et on voit qu'il y a une dynamique qui est en train de se faire. C'est loin d'être parfait, non ? Parce que nous ne sommes pas parfaits comme Église. Non ? Mais c'est évident, si la synodalité ne passe pas au niveau local, au niveau paroissial ou autre niveau local, alors cela restera une théorie pour l'Église universelle. Il faut que ce soit dans le concret à la base.
Un très très grand merci à tous les intervenants de cette soirée et merci à vous aussi. Voilà, je pense que on peut s'en tenir là pour aujourd'hui. Et bon nouveau commencement. Voilà.
Comment ?
On n'a pas répondu à la question sur le pauvre.
Ah non, on vient d'être.
Oui, oui, c'est absolument.